بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شفيع ان اسلام nous avons lu aujourd'hui la sourate al-an'am. Nous avons complété la sourate al-an'am dans le 7e juz et donc demain inchallah on va commencer la sourate al-a'raf. Alors parmi les versets qu'on a lu aujourd'hui, ce qu'on a retenu, c'est un verset qui décrit lorsque Malik al-Maut vient reprendre l'âme de la personne qui n'a pas foi en Allah. Walau tara, verset qui a été lu par notre ami Yassine, walau tara idil zalimuna fi ghamarat al-maut. De ce verset, Allah Ta'ala décrit que si tu voyais la personne qui a fait le volm, c'est-à-dire l'oppresseur, c'est-à-dire que la personne qui a refusé de croire en Allah Azza wa Jal, lorsqu'il est dans le ghamarat al-maut. Le ghamarat, c'est le sakarat, c'est les affres de la mort, le moment de l'agonie. Dit qu'un ange de la mort vient, l'ange de la mort est toujours accompagné par un cortège d'autres malaïka. Et donc là, l'ange tend ses mains vers la personne et Ibn Kathir il dit ay bil darbi, ay bil adhab. L'ange se met à frapper, à battre cette personne. Pourquoi ? Pour que l'âme puisse quitter le corps. Akhriju, la suite du verset, akhriju anfusakum. Et ça rejoint le verset lorsqu'Allah Ta'ala dit, وَلَوْ تَرَا إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. C'est-à-dire, avant de mourir le kafir, tellement il résiste. Il résiste à l'ange de la mort parce que lorsque, comme on dit, l'ange de la mort vient reprendre l'âme, l'ange de la mort est précédé par un cortège de malaïka. Et ce cortège de malaïka, soit ils annoncent la bonne nouvelle à la personne, si c'est quelqu'un qui avait la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah dans son cœur, ou soit ces anges annoncent la mauvaise nouvelle à la personne, si la personne n'a pas cru en Allah. Et si la personne qui n'a pas cru en Allah, il voit que les anges qui viennent, ce sont des anges de malédiction d'Allah, qu'il annonce la mauvaise nouvelle, qu'il annonce qu'Allah est mécontent de toi, que tu as raté ton séjour sur ce dunya et qu'un châtiment t'attend, alors l'âme essaie de se cacher. L'âme essaie de se cacher, il parcourt le corps pour ne pas sortir, pour ne pas tomber entre les mains, en guillemets, de Malik al-Maut. Et là, l'ange de la mort se met à frapper cette personne en disant « Akhriju anfusakum » Laissez sortir vos âmes. Ibn Kathir, rahimallah, à travers ce verset, il explique que, regardez la situation terrible de la personne qui n'a pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, au moment de mourir. Le fait d'entendre ces versets, cette description, ça nous fait comprendre que l'étape de la mort, personne ne peut y échapper. On est tous d'accord. Kullu nafsin dha'ifatul maut. Il n'y a pas une créature qui échappe à la mort. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Et pour mourir, il faut passer par les affres de la mort, le sakarat, le ramaratul maut. Qu'on soit mu'mine, pieux ou moins pieux, chaque personne doit passer également par l'étape de sakaratul maut, cette agonie qui fait plus ou moins souffrir la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même en personne avant de mourir, il disait que wallahi inna lil maut sakarat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je jure par Allah que cette mort est douloureuse. Avant de mourir, avant que l'âme quitte le corps d'un être humain, ça c'est une épreuve difficile, c'est douloureux. Imaginez l'âme qui est dans notre corps depuis qu'on est dans le ventre de notre maman. Selon certaines sources, certaines versions, c'est depuis l'âge de 4 mois quand le fœtus est dans le ventre de sa maman, l'âme est insufflée. Depuis ce moment, le ruh, il est dans le corps de la personne. Et la personne a vécu 50 ans, 60 ans, 70 ans, comprenez que l'âme ne veut pas quitter le corps. Mais si c'est un mu'min, quelqu'un de pieux, ben il reçoit le cortège d'anges. Dans certaines sources, c'est dit qu'un cortège d'anges à portée de vue, à perte de vue, le défunt voit. Alors quand on dit que le défunt voit, même si le défunt n'est pas conscient, même si qu'Allah nous protège, le défunt est allongé sur le sol, il y a un accident de voiture, même si le défunt, c'est-à-dire la personne qui va mourir, est sur un lit d'hôpital, conscient ou pas conscient, la personne voit ces choses qui se produisent devant. De toute façon, c'est le seul qui voit. Les personnes qui sont autour ne voient pas. Même si on est en train d'assister quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital, il est en train de mourir, on essaie de le faire, il y a le talqin, le shahada, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer, nous on n'imagine même pas. Mais le seul qui a la possibilité de voir, c'est la personne qui est en train de mourir. Pourquoi ? Parce que cette personne-là, elle est en train de quitter le monde du visible pour rentrer peu à peu dans le monde de l'invisible. Ce qui fait que maintenant, ses yeux commencent à voir les choses du monde de l'irréel, du monde de l'invisible. Mais le mu'min, il reçoit donc le cortège, comme on a dit, à perte de vue, des malaïka qui n'annoncent que des bonnes nouvelles, qu'Allah est content de toi. On t'annonce la bonne nouvelle, qu'Allah est satisfait de toi, et qu'il y aura une demeure pour toi, il y aura telle récompense. Donc, même s'il y a une douleur, il faut que l'âme quitte le corps, mais le mu'min est heureux et satisfait. Parce que quelqu'un qui a fait de bonnes actions durant toute sa vie, cette personne, au moment de mourir, elle a une quiétude, une tranquillité dans le cœur. Et le prophète dit, « Man ahabba liqa Allah » hadith qu'on répète très souvent, « Ahabba Allahu liqa » celui qui aime rencontrer Allah, Allah Ta'ala également aime le rencontrer. Mais pour aimer rencontrer Allah, il faut vraiment avoir vécu de ce dunya en respectant à la lettre les ordres et en respectant à la lettre les interdits. C'est-à-dire, c'est pas un devoir mensuel, hein, qu'on comprenne bien que quand on dit respecter les ordres d'Allah et respecter les interdits, c'est pas durant le Ramadan. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne bien. C'est respecter ses ordres et ses interdits durant toute notre vie. À partir du moment où on est baligh jusqu'à ce que l'ange de la mort reprend l'âme, on est mukallaf. Il y a des malaïkas qui écrivent nos actions. Il y a des anges qui rapportent à Allah régulièrement, matin et soir, quelles sont nos actions. Et chaque chose qu'on fait, chaque parole qu'on prononce, chaque pas qu'on va faire est enregistré dans ce livret de comptes qui nous sera présenté le jour des comptes. Et donc, on voit ce verset, on se rend compte comment la personne qui n'a pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah va connaître des moments difficiles avant de mourir. Alors, quelle doit être une réaction? Tout simplement condamner ceux qui n'ont pas la foi? Non. Au contraire, éprouver de la pitié pour eux. Et se sentir encore plus quoi ? Responsable, oui Yacine, encore plus responsable de ces personnes. Si parmi nos proches, nous avons des personnes hein, qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans leur cœur, ben nous devons être attristés pour ces gens-là. Il est inconcevable qu'un mu'min, un musulman, puisse côtoyer, considérer un collègue, un ami, comme quelqu'un de proche, avoir de bonnes relations avec lui, sans se faire du souci pour lui, pour son akhirat. Hein, si on a un ami qui ne connaît pas grand-chose, quelqu'un qui, je ne sais pas, habité où, et il dit que voilà, mon docteur m'a dit que je suis malade, j'ai un cancer, il faut faire une chimiothérapie. Mais il dit, moi, pour moi, c'est n'importe quoi, je vais prendre deux doliprane et ça va être bon. Je suis sûr que c'est rien, je vais prendre une tisane. Il ne sait pas c'est quoi. Et nous, on sait. Peut-être quelqu'un qui sort d'un pays extrêmement sous-développé, il ne connaît même pas c'est quoi les maladies graves. Et nous, on sait. Alors, et si on aime bien cette personne, c'est sûr qu'on va se sentir responsable. On va dire, non, mon ami, hein, ne sous-estime pas cette maladie. C'est quelque chose qui tue. Ça va détruire tes cellules. Tu auras tel problème. Donc, on va se sentir responsable de la personne. Maintenant, que dire de l'au-delà, le akhirah d'une personne? Quand on sait que si quelqu'un meurt sans la ilaha illallah, regardez, on ne parle même pas de la tombe, Allahu Akbar. On ne parle même pas du mahshar, de l'au-delà, de la résurrection, du jahannam. Non, on parle de l'étape où son corps va quitter ce dunya. Quelles seront ses souffrances? Donc nous devons nous sentir responsables. Et puis il est dit que, on dira, cette personne, « Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum » des reproches hein, et un rappel en même temps à cette personne que maintenant vous allez revenir vers nous, hein, revenir vers Allah seul, comme vous avez été créé. Et « Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum » et tout ce que vous avez en ce sens cumulé comme bien de ce dunya, vous laissez derrière votre dos. Dans un hadith, on va terminer avec ça, il dit que le joueur dit que hadith, Allah Ta'ala demandera à la personne, une personne le joueur des comptes, aïna ma jama'ata, où est-ce que, où est tout ce que tu as récolté, où est-ce que tu as mis de côté, tu as gagné de ce dunya. Il va dire, ya Rab, jama'atuhu wa taraktuhu awfara man kan. La personne croit bien faire en répondant à Allah Azza wa Jal que, oh Allah, tout ce que tu m'as accordé comme bienfait, j'ai fait fructifier. J'ai eu beaucoup plus, et quand je suis mort, j'ai laissé encore plus que ce que tu m'avais donné. Et Allah Ta'ala dit, fa'ayna ma qaddamta li nafsik. Maintenant, où est ce que tu as amené maintenant? Ce que tu as préparé pour ton pour l'au-delà, pour ce moment. Fala yarahu qaddama shay'a. Et la personne va se rendre compte qu'elle n'a rien préparé. Qu'elle a certainement fait fructifier tous ses biens. Il est devenu quelqu'un de riche, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de tout ça. Mais la personne ne s'est pas souciée de ce moment où il va converser avec Allah. Et Allah Ta'ala va demander qu'est-ce que tu as préparé comme bonne action. Et dans un hadith, il dit également que lorsque une personne est en train de mourir, hein, les êtres humains autour de lui, qu'est-ce qu'ils demandent? Sincèrement ou hypocritement, ماذا أخر? Qu'est-ce qu'il a laissé? Les gens disent, il a laissé quoi? Est-ce qu'il y avait des biens? Connaît quelqu'un de la famille est mort, il va mourir, pardon. On se demande, est-ce qu'il a des biens? Est-ce qu'il y a quelque chose chez le notaire? Est-ce qu'il y a un testament? Peut-être qu'il y a quelque chose, il écrit notre nom dedans. Mais les anges demandent, Mada Qaddam. Les anges ne regardent pas ce que vous avez laissé. Que vous ayez 20 bâtiments au centre-ville Saint-Denis, ou que vous ayez rien du tout, que vous êtes inscrit à l'NPE, pour les anges, ce n'est pas leur problème ça. Ils demandent, Mada Qaddam. Il a amené quoi avec lui de sa tombe? Vous savez le hadith? Et donc, le hadith dit que lorsqu'une personne meurt, il y a trois choses qui suivent la personne. Il y a ses biens, sa famille et ses amal, et ses actions. Et lorsque la personne est enterrée, lorsqu'on enterre la personne, vous savez, autant que vous pouvez aimer quelqu'un, mais quand la personne meurt, on l'enterre, oui ou non? Il n'existe pas quelqu'un qui dit, bon, j'aime tellement ma femme que quand elle va mourir, je vais le mettre dans un congélateur, je vais le garder à la maison. Il y a eu un cas ici à La Réunion, un professeur de philosophie et tout, mais justement, il faut être professeur de philosophie, d'accord? Autrement, non, d'accord? Et donc, même si on aime quelqu'un, subhanallah, d'un amour extraordinaire, exceptionnel, que ce soit un amour de mari envers sa femme, ou alors d'une affection de papa envers ses enfants, quand quelqu'un quitte le monde du dunya, c'est la loi, c'est la règle d'Allah, on se débarrasse du corps. On doit l'enterrer absolument. D'accord? Et donc, quand la personne est enterrée, le hadith, on reprend les trois choses qui le suivent. C'est bien, sa famille et ses amal, ses actions. Quand on dit action, c'est bonne et mauvaise. Et lorsque la personne est enterrée, la famille retourne, les biens retournent, et qu'est-ce qui reste? Uniquement les amal avec cette personne. Chers frères, qu'Allah donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de faire beaucoup de soucis pour qu'on prépare ce premier moment. Le premier moment, c'est le moment crucial. La rencontre avec l'ange de la mort. On ne parle pas encore de la rencontre avec Allah. C'est-à-dire quand le mu'min voit l'ange de la mort venir, là il comprend s'il a réussi son passage de ce dunya, oui ou non. Si c'est un ange de rahma qui vient, de bénédiction, il sait que c'est bonne nouvelle, c'est bonne nouvelle. Que toutes les étapes qui vont venir après, ce seront des ouvertures, des facilités. Mais si dès le départ, il voit que les anges qui viennent reprendre son âme, ce sont des anges de la malédiction, du azab, alors la personne sait qu'Allah Ta'ala n'a pas accepté son passage sur le dunya. Qu'Allah nous accepte notre tawfiq de comprendre, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs, et qu'Allah mette dans nos cœurs le fikar pour la umma, le désir de guider pour chaque personne. Les gens que nous fréquentons, nous devons régulièrement demander doigt, oh Allah, accorde hidayah à telle personne. Si on avait des professeurs au collège, au lycée, qu'on aimait bien, qu'on fréquentait avec mohabba, avec entente, ben on doit se faire du souci pour toutes les personnes qui sont autour de nous, qui n'ont pas la foi, on doit demander, oh Allah, accorde-le à la guider, qui ne meurt pas dans les garments. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan.